Karine Joriot.
L'armée polonaise a annoncé aujourd'hui avoir fait décoller des avions de chasse et mobilisé toutes les forces et ressources disponibles pour protéger son territoire pendant une attaque massive de missiles et de drones russes contre l'Ukraine. Le commandant central polonais a cité des frappes, notamment dans l'ouest de l'Ukraine. Tôt ce matin, des explosions ont par ailleurs secoué plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev. Le président élu américain Donald Trump a annoncé hier avoir choisi Chris Wright pour occuper le poste de secrétaire à l'énergie. Chris Wright est cadre de l'industrie pétrolière et gazière et fervent défenseur de l'utilisation des combustibles fossiles. Il est le fondateur et le directeur général d'une entreprise spécialisée dans la fracturation hydraulique. Il devrait soutenir le projet de Donald Trump visant à maximiser la production de pétrole et de gaz et à trouver des moyens de stimuler la production d'électricité, dont la demande augmente pour la première fois depuis des décennies aux États-Unis. Les Sénégalais élisent leurs députés. Aujourd'hui, leurs dirigeants visent la majorité la plus large possible pour appliquer l'agenda de justice sociale avec lequel ils ont été portés au pouvoir il y a 8 mois. 7,3 millions d'électeurs sont appelés à élire 165 députés qui siégeront pour 5 ans. Le sommet du G20 s'ouvre demain à Rio de Janeiro. Il sera un test majeur pour le président brésilien Lula qui tente de s'imposer à nouveau comme un leader mondial qui compte malgré une diplomatie en demi-teinte. Il cherchera notamment l'adhésion des dirigeants des plus grandes économies de la planète à son alliance globale contre la faim et la pauvreté et à son projet de taxation des super-riches. Il y avait du sport hier soir, du hockey sur glace en National League. Ajoie a gagné face à Ambri-Piotta 4-2. Fribourg-Gotteron s'est imposé à Davos en toute fin de partie 3-2. Genève Servette, en revanche, a échoué à fêter son 3e succès à domicile cette saison en s'inclinant 5-4 après prolongation par Cloton. Dans les autres rencontres, Langnau s'est imposé face à Bienne 1-0. Enfin, Berne a battu Zoug 3-2. En natation, le Tessinois Noé Ponti a signé sa meilleure performance hier lors de la 2e journée des championnats de Suisse en petit bassin dans le canton de Zurich. Il a battu le record national du 50 mètres libre en 21 secondes et 18 centièmes. C'est la première fois qu'il bat un record de Suisse en crawl. La météo du Stratus ce matin sur le plateau, sinon temps bien ensoleillé, plus nuageux en revanche sur l'arc jurassien, des nuages qui vont s'étendre aux autres régions dans le courant de l'après-midi. Quelques précipitations sont possibles en soirée, température maximum 10 degrés cet après-midi. Demain, temps en partie ensoleillé encore, puis une perturbation est attendue à partir de mardi.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Avec la RTS, célébrons la musique classique. La Schubertiade RTS Espace 2 essaimera ses plus belles notes à Sion les 6 et 7 septembre 2025. Une centaine de concerts et divers registres musicaux pour un public passionné de musique. Vous êtes soliste, membre d'un ensemble instrumental ou d'un chœur et souhaitez participer à l'affiche de cette 22e édition ? Les candidatures sont ouvertes dès maintenant et jusqu'au 1er décembre sur le site schubertiade.ch.
Côté jardin, Pauline Saiterley.
Encore une heure ici en présence et en direct de ce domaine de Bedon, ou plutôt le pied du domaine, puisqu'on est en bas de la montagne, au départ du téléphérique qui mène à ce domaine perché là-haut, le domaine de Marion Grange. Et dites Marion, vous avez décoré la table ici, mais c'est splendide, avec des fruits de chez vous, parce que vous faites pas que du raisin, vous faites aussi des pommes. Et puis ça, mais qu'est-ce que c'est beau, cette grenade.
Oui, c'est une grenade. J'ai planté des grenadiers autour de la vigne du pied du téléphérique qui est exactement sous Bedon, sous les falaises de Bedon. Et il me semblait, contre la forêt, il me semblait que le microclimat était propice. Et oui, voilà, il y a des grenades, il y a des figuers, des oliviers. Voilà, c'est un peu la Méditerranée.
Et là, ils se sont ouverts, donc c'est à cause du froid, hein, c'est ça ?
Non, ils éclatent de rire. C'est la pluie qui les a fait sauter.
Donc, c'est magnifique. C'est encore plus beau quand c'est éclaté. Enfin, on voit tous ces petits grains rouges à l'intérieur, sous cette écorce d'un vert absolument splendide. C'est merveilleux. Mais vous disiez, c'est dommage, ça pourrit quand ça éclate comme ça.
Quand c'est éclaté, il faudrait les manger tout de suite parce qu'il y a la moisissure qui s'installe. Puis il y a nos amis les oiseaux qui viennent aussi les manger, les ouvrir quelquefois.
Heureux sont les oiseaux à Bedon. On pourrait en faire du vin, Nadine Fenninger-Bridy, avec ses grains de grenade. Ça pourrait être un avenir pour le Valais, tiens, le vin de grenade.
Alors, je ne sais pas si c'est un avenir pour le Valais, mais j'ai dégusté du vin de grenade en Inde. En fait, ils le font là-bas. C'est assez particulier, assez astringent. Ils n'ont pas une grande tradition de la vinification. Alors, peut-être que nous, avec notre expérience de la vinification, on arriverait à faire un produit qui soit un petit peu plus agréable à boire.
Qui veut se lancer autour de la table dans le vin de grenade? Je ne sais pas. Peut-être vous, Caroline. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venue nous voir ce matin. Vous aviez une question pour nos spécialistes.
Oui, une petite question toute simple à Nadine pour une débutante dans les vignes. Donc, j'ai hérité un petit domaine à la Melasse, en dessus de Châtaignier, qui a de la petite arvine ainsi que du gamay vieille vigne. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a la possibilité déjà de pré-tailler pour gagner un peu de temps là à la taille en début d'année, à savoir est-ce que je peux déjà couper le deux tiers des sarments afin d'avoir un petit peu moins de job plus tard au vu des températures actuelles?
Oui, alors tout à fait, c'est possible de pré-tailler maintenant. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup de vignes qui ont été pré-taillées. Les vignerons ont profité de la présence des ouvriers et du beau temps qu'on a eu après les vendanges. Mm-hmm. On aurait bien voulu l'avoir pendant, mais on l'a eu après les vendanges. Du beau temps pour pré-tailler. Après, la hauteur à laquelle on pré-taille, ça dépend un peu du système de culture. Si on a une taille guyot,
c'est
ou
du gobelet.
Plie. Voilà, alors si c'est du gobelet, on peut y aller à un deux tiers, laisser quelques yeux et puis faire la finition au printemps, enfin à la fin de l'hiver.
Sans souci. Merci beaucoup, c'est gentil.
Merci Nadine Fenninger-Bridy, chef de l'Office de la vigne et du vin et œnologue cantonale, qui s'improvise jardinière ce matin et qui répond aussi aux auditeurs et aux auditrices venus nous voir ici au domaine de Bedon. Bonjour Roselyne.
Bonjour.
Bonjour à tous. Votre question?
Alors ma question, c'est que dans notre jardin, il arrive plein de petits arbustes, que ce soit des pêchers, des pruniers, j'ai même un néflier. Alors je me demande si je peux les garder, si je peux les greffer par la suite, enfin qu'est-ce que je peux en faire, parce que souvent je les déplace pour les mettre à une place qui me convienne et puis que je dirige un espalier. Et voilà, j'aimerais savoir à quel moment je peux les greffer et puis s'il y a cette altitude, parce que je ne sais plus quelle altitude c'est, ça vient. Voilà.
Nicolas Faïs.
Oui, ça c'est intéressant. Donc souvent on a le compost et puis on met des fruits sur le compost et les noyaux, par exemple les noyaux des pêches et les noyaux des abricots, et on peut dire c'est deux essences qu'on peut multiplier avec succès avec les noyaux. Donc ça donnera peut-être pas garanti exactement la même variété que vous avez jeté au compost, mais ça donnera des pêches, en tout cas les pêches, et puis on appelle souvent ces pêches de vigne, puisque ça c'est des gens qui ont jeté leur pêche dans la vigne, et puis après ça poussait un pêcher. Pêche de vigne, c'est des variétés qui existent, pêche de vigne, c'est des variétés à chair blanche, et puis ça c'est une variété qui va très bien. Et les abricots, c'est la même chose. Vous savez que les abricots, toutes les nouvelles variétés d'abricots sont issues du croisement, et on fait les croisements aux fleurs, hein. Le croisement se fait par les fleurs, et les noyaux donnent des abricots. Mais vous pouvez acheter des abricots, que ce soit des lusées ou n'importe quel autre, vous pouvez les semer, et ça va donner des abricots. Ça, c'est presque garanti. Mm-hmm. Parce que dans leur pays d'origine, en Turkménistan, par là-bas, ils multiplient les abricotiers que par semis. Ils ne greffent pas. Mm-hmm. Tandis que toutes les autres variétés, par exemple les pommiers, vous pouvez faire de semis de pommes, de pépins de pommes, ça va assez long jusqu'à ce que ça donne des fruits. Et là, vous pouvez avoir des petites pommes comme ça, comme vous pouvez avoir des autres pommes, ce n'est pas garanti.
Alors qu'avec les abricots, ben voilà, on a la garantie d'avoir un fruit qui ressemble à un abricot.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Peut-être pas juste la variété que vous avez semée, mais ça va faire des abricots qui sont tout à fait valables.
Question subsidiaire, si on a autre chose que abricot ou pêche qui va pousser et puis qu'on aimerait faire une greffe sur justement un début d'arbre qui s'est bien enraciné et qui est au bon endroit, à quel moment on peut faire cette greffe ?
Bon, ça dépend de l'essence. Hein. Donc, en général, les greffes se font au mois d'août sur des plantes qu'on a cultivées l'année précédente. Mmh. Ce sont des petits baguettes et puis là, on fait une greffe au mois d'août. C'est soit une greffe en écusson ou une autre greffe. Et puis, si on veut, par exemple, surgreffer, si on veut changer ou bien greffer une autre variété sur son cerisier ou bien sur son abricotier, ça se fait au mois d'avril, fin mars-avril. Mais il faut garder les bois, il faut les prendre en hiver, les bois. Il ne faut pas que les bois du greffon soient poussés. Il faut les prendre en hiver, les conserver au frigo humide. Et puis les greffer fin mars, début avril.
Merci beaucoup Nicolas et merci à Roselyne d'être venue ce matin nous rejoindre ici. Il fait pas trop froid, hein, on est bien.
Non, ça va bien.
On peut dire aux autres fuliériens de venir nous rejoindre. On est donc pas très loin, enfin on est à la sortie du village en direction de Sion et vous pouvez venir nous rejoindre donc au départ du téléphérique qui monte au domaine de Bedon et vous allez voir comme c'est beau ici, comme le soleil se lève, c'est magnifique et on a plein de choses pour vous accueillir. On le disait, une grenade du coin et des fruits, des légumes, des croissants et du café. Et pour toutes les personnes qui malheureusement ne peuvent pas venir jusqu'à nous, eh bien vous pouvez nous écrire vos questions à côtéjardin@rts.ch. On y répondra avec plaisir la semaine prochaine.
Sur la première, Côté Jardin.
Et un peu de musique à 8h11 sur la première.
Je vous parle d'un temps. La nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Saint-Denis en ce temps-là était mon seul décor et mon terrain de fête. Une terrasse de café, 2-3 poteaux qui passent et le plan s'éternise. Et le clocher de la mairie qui à 18h chante le temps des cerises. Je vous parle d'un temps que j'ai connu un temps comme une belle escale. On avait 1000 projets qu'on fantasmait devant une omelette frite à 4 balles. On avait des idées et on refaisait le monde au pied des bâtiments. Le monde a dû nous voir, il nous a offert l'espoir, c'est un bon commencement. La bohème. Je vous parle d'un temps. La bohème. Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire, on est heureux. La bohème.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire
la nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Souvent il m'arrivait devant mon cahier de passer des nuits blanches, noircissant toutes ces pages avec excitation, presque comme une revanche. Scander des poésies, quelle jolie fantaisie face à des presque frères, sans enjeu précis, se sentir bien en vie et gagner quelques bières. L'inspiration était partout, je pouvais souvent la voir déborder. De notre innocence, de notre nonchalance, de notre vie débridée. On a laissé une trace en hurlant nos histoires à la gueule du monde. Je vous parle d'un temps dont je ne changerai pas une seule seconde.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire, on est heureux.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire
la nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je reconnais les rues, mais l'esprit n'y est plus. Moins d'envie, moins de promesses.
Reste alors le souvenir qui me donne le sourire et ce pincement extrême, la nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème.
La bohème, version grand corps malade, avec Aznavour évidemment en accompagnement sur la première à 8h14. Tout à l'heure, on parlait des nouvelles variétés qui sont testées sur le terrain en Valais. Floréal, Voltis, Artaban, Vidocq. Moi, c'est la première fois que j'entends ces noms. Nadine Pfenninger-Bridy, œnologue cantonale, chef de l'Office valaisan des vins. Qu'est-ce que c'est que ces variétés? Quelles sont leurs caractéristiques? Qu'est-ce qu'on recherche quand on va demander à des chercheurs de trouver des nouvelles variétés?
Alors, c'est des nouvelles variétés de cépages résistants. Aujourd'hui, on les appelle robustes. Ils ont été développés par des croisements entre des vignes, Vitis vinifera, dont sont issus nos cépages, et d'autres types de vignes asiatiques, américains. Et puis, on a vu qu'ils avaient des résistances. Donc, on a essayé de les multiplier, on a essayé de les croiser avec des cépages plus traditionnels pour obtenir des cépages qui ont des caractéristiques intéressantes organoleptiquement.
Ils avaient des résistances. Face à quoi? C'est quoi?
Alors, c'est des cépages qui ont été développés pour des résistances au mildiou et à l'oïdium, principalement,
enfin
essentiellement. Voilà. Et ça veut dire qu'ils sont résistants à ces maladies-là. Aujourd'hui, avec l'évolution climatique, il y a d'autres maladies qui arrivent. On a de la flavescence dorée. Il semble que certains de ces cépages ils soient plutôt sensibles à la flavescence dorée. On a des ravageurs qui arrivent, on a ce scarabée japonais. Donc ça résout pas tout. Les cépages résistants ne résolvent pas tout. On peut traiter un petit peu moins, mais ça reste compliqué.
J'avais prévu de vous demander quel était le raisin que vous, si vous aviez un petit terrain, vous alliez planter. Genre votre raisin de rêve, je pense qu'il n'existe pas, si je vous
Alors,
entends
bien. Alors, il n'existe pas encore, mais j'espère qu'il existera un jour. C'est de la petite arvine résistante. Donc, voilà. Donc, nous, à l'État du Valais, là, on finance un projet avec Agroscope et l'INRA, l'INRAE, pour croiser justement des cépages résistants avec de la petite arvine. On le fait aussi sur Cornalin, Humagne Rouge et Païen, pour essayer de s'approcher le plus possible avec ce cépage croisé d'une petite arvine, des cépages traditionnels, mais avec les gènes de résistance des cépages résistants.
Marion Grange, qu'est-ce que vous dites, vous, de toutes ces variétés, ces résistances? Qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est très intéressant. Nous avons planté, Jacques a planté déjà en 2010, du Chambourcin. C'est un cépage qui a été obtenu dans les années 60 et qui est passablement cultivé de par le monde. C'est très intéressant. Et puis, on a planté aussi en 2010 du Divicourt, mais à l'endroit le plus séchard du domaine, donc il ne produit pas tellement. Mais j'en ai replanté il y a quelques années. On a fait la deuxième récolte cette année. Et oui, c'est intéressant. Mais j'avais beaucoup d'enthousiasme pour ça parce que, à Bedon, dans les pentes vertigineuses, c'est le pire de faire les traitements. Les fauchages et les traitements, c'est la pire chose. Les traitements, c'est le pire. Donc, si on peut simplifier ça, c'est formidable. Mais maintenant, il commence déjà d'avoir des problèmes avec le Divicourt. Un expert grêle qui a passé par là nous a montré une photo de sa vigne de Divicourt, je ne sais pas si c'est dans le canton de Vaud ou quoi, qui était déjà bien malade d'oïdium. Et cette année, on a quand même fait, d'habitude, nous, on n'a pas fait de traitement du tout sur ces résistants. J'ai planté aussi on a planté du floréal, on a fait la première récolte cette année. Bon, lui, il est archi résistant pour le moment. Et c'est génial. Mais si les résistances s'affaiblissent et que les vignes deviennent quand même malades, c'est tout un problème. J'espère que les résistances vont durer, mais certains spécialistes m'ont dit qu'au bout de 20 ans, c'était fini. Alors on doit habituer les consommateurs à un vin nouveau, à des goûts nouveaux, puis après, si au total on se retrouve dans 20 ans avec les mêmes problèmes qu'on a avec les cépages traditionnels, c'est un peu le point d'interrogation.
À vous la parole, Nadine. Je sens que vous brûlez d'impatience de réagir.
Oui, alors par exemple, nous, on s'est concentré sur les nouvelles générations de cépages résistants, parce que c'est des cépages qu'on appelle polygéniques. Ça veut dire qu'ils ont plusieurs gènes de résistance. Donc quand on a un affaiblissement sur un gène de résistance, on a encore d'autres gènes de résistance sur le cépage, ce qui n'était pas le cas des plus vieux cépages résistants, ben, par exemple du Chamboursin ou du Regent ou de ces cépages-là où on a observé des contournements de résistance, justement. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment avec des cépages qui sont beaucoup plus résistants et devraient être beaucoup plus résistants sur la durée.
On se rend compte aussi que ça va un peu dans tous les sens parce que tout le monde cherche des solutions. Et j'imagine qu'aussi, pour l'œnologue cantonal, c'est important qu'il y ait quand même une forme d'identité. Enfin, il y a quand même aussi cette question de l'origine, du terroir, comme on le disait aussi. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a une forme de conduite? Vous essayez de pousser un petit peu les vignerons dans un sens pour essayer d'uniformiser et puis de garder une identité à ce vin valaisan?
Alors, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, hein, le Valais s'est construit dans sa diversité de cépages. C'est une richesse. Aujourd'hui, c'est aussi un peu une faiblesse parce que c'est très compliqué d'aller chez le consommateur avec une grande palette de vins. Alors, ça peut être intéressant quand ils viennent à la cave d'avoir beaucoup de vins à leur faire déguster, mais c'est pas toujours évident d'avoir cette. Donc, il faut essayer de se concentrer sur quelques cépages et de créer des marchés pour ces cépages-là. Sinon, on va se perdre, on va avoir des marchés de niche, mais on va pas réussir à positionner des nouveaux cépages.
Merci beaucoup Nadine Pfenninger-Bridi, chef de l'Office Valaisan de la Vigne et du Vin et œnologue cantonal. Vous restez un petit peu avec nous hein, jusqu'à la fin de cette émission. Et puis Marion Grange, alors vous disiez traitement tout à l'heure, alors qu'en biodynamie on ne traite pas, m'a-t-on dit. C'est pas vraiment des traitements que vous faites.
La vigne est une culture très très ancienne dans l'évolution de la terre et elle s'affaiblit de plus en plus. En plus, elle est multipliée végétativement. C'est pas comme Nicolas Feiss disait tout à l'heure, des abricotiers dépêchés qu'on met le noyau et puis ça repousse. Et chaque fois, la plante se régénère complètement. Si vous faites ça de façon végétative par greffage, c'est toujours la même plante que vous remettez. Mmh. Alors, elle s'affaiblit avec le temps.
Donc il faut la soutenir avec des préparations comme vous le faites en biodynamie.
La viticulture, c'est quasi impossible sans traitement phyto. Mm-hmm. Mais nous, les traitements phyto qu'on fait, ce sont des produits, peut-être le cuivre, le soufre, c'est de la chimie, mais ce n'est pas de la chimie de synthèse. Mm-hmm. Voilà.
Voilà, donc
on fait des traitements à base de petits laits, nous personnellement, avec des tisanes. Je fais à peu près 6 tisanes. Il y a la prêle, la décoction de prêle à la base, qui est déjà préconisée aussi par Rudolf Steiner dans le cours d'agriculture pour les cultures, pour toutes sortes de cultures qui sont sensibles aux maladies fongiques. Mais on met aussi du cuivre, du soufre. Et du cuivre, mais en quantité très limitée. Mmh. Et puis, on travaille aussi avec des huiles essentielles. Et ça, c'est pour les traitements phyto contre l'oïdium et le mildiou. Mais on renforce aussi les plantes avec des préparations biodynamiques. Donc, on a une préparation biodynamique, c'est la bouse de corne, qu'on épand, comme maintenant, à l'automne, hors gel, et au printemps. Une fois sur la terre, c'est pour rendre vivante la terre, c'est pour les micro-organismes de la terre. Et c'est fabuleux, ça transforme les terroirs. Nos terroirs sont très humiques avec la fauche de l'herbe. Il y a un humus qui s'est formé qui est grandiose.
Merci beaucoup.
Et puis après, il y a la préparation biodynamique, encore l'été, qu'on a beaucoup utilisé cette année. C'est faite à base de cristal, de quartz, c'est la silice, qu'on épand sur la végétation de bonne heure le matin. La bouse de corne, c'est le soir, pour revenir au rythme.
C'est très complexe. Et puis, on va parler tout à l'heure avec les représentants de l'association Romande de Biodynamie des formations qu'ils proposent. J'ai entre les mains d'ailleurs un petit document qui parle d'une prochaine formation à propos de cette biodynamie qui est le sujet dont on parle ce matin pour les 100 ans de la biodynamie. Et on parle aussi du vin, évidemment, et de la vigne ici en direct de Fuy. Dans quelques minutes, on va accueillir Marie-Lise Dorsa pour parler des arbustes indigènes. Et puis de quels sont les arbres qu'on peut planter aussi pour accompagner la vigne. Et on parlera peut-être aussi de vitiforesterie. Et ce sera après un peu de musique. Côté Jardin, en direct de Fuy ce matin, il est 8h27 et on parle des vignes, des soins apportés à la vigne et au vin évidemment. Et puis on parle des 100 ans de la biodiversité avec des membres de l'ARB, l'association romande de biodiversité. Mais avant de les rejoindre, on a encore un autre sujet à aborder et c'est Marie-Lise Dorsa qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes horticultrice et vous venez nous parler de la 10e édition, enfin plutôt du 10e anniversaire d'un petit fascicule qui est devenu un véritable succès en Valais. C'est Vive les arbres et arbustes indigènes pour des haies vivantes et variées. Et c'est un fascicule qui est né à Fuy. Racontez-nous le départ, le début, l'histoire de ce fascicule.
Bon, alors il y a quelques années en arrière, justement, il y a des personnes qui se sont intéressées à plutôt cultiver des arbustes de chez nous, qui justement supporte la sécheresse et puis Ben, sont aussi, comment on peut dire ça,
vertueux pour la faune.
Voilà, exactement. Pour les oiseaux, pour les insectes aussi.
Alors, on peut trouver ce fascicule qui est édité par le Triage Forestier de Fuy. Exactement. Il est aussi possible de le télécharger. D'ailleurs, nous avons mis le lien sur la page de Côté Jardin. Vous allez sur la droite de la page de notre site internet rts.ch/Côté Jardin. Vous allez sur la droite et puis sous les liens du dimanche, vous allez trouver ce fascicule. On parlait aussi du fait que c'est souvent le cas que des gens qui ont des vignes viennent chercher chez vous des arbustes à planter au milieu de leur vigne. Est-ce qu'il y a, quel est l'avantage en fait d'avoir des arbustes indigènes au milieu des vignes?
Ben voilà, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est pour faire venir justement les oiseaux et les papillons, les insectes qui vont pouvoir se nourrir et puis aussi, ben voilà, comme on disait aussi de ça va manger des pucerons ou des choses comme ça qui sont pas très bonnes pour la vigne ou des insectes en fait. Donc eux ils sont là déjà sur place et puis ils vont s'occuper de tout ça au lieu qu'on ait besoin de traiter.
Qu'est-ce que voilà. Vous pourriez nous conseiller comme essence à mettre?
Ouf, alors ben souvent ils viennent chercher que ce soit des coronies ou un peu de tout en fait, tout ce qu'on a. Coronies, qu'est-ce qu'il y a aussi des chèvrefeuilles. Des viornes, des cornouillers, voilà, tout ça qu'on peut mettre, ou des aubépines aussi, des choses un petit peu piquantes qui protègent aussi les oiseaux.
Et qui attirent des oiseaux qui sont des oiseaux plutôt insectivores.
Voilà,
parce que si
exactement.
C'est des oiseaux mangeurs de raisins, là on est peut-être un peu plus embêté.
Exactement, voilà.
Nicolas.
Oui, ces arbustes indigènes, c'est formidable, c'est parti d'un projet de Monsieur Pillet, biologiste qui était à l'époque très actif là-dedans, qui a créé justement pour remplacer les fameux tuyas et puis les laurels et tout ça dans les jardins aussi. Et puis pour la vigne, il y a aussi des choses importantes, c'est de mettre des plantes vivaces, florifères ou comme ça, qui tapissent le sol à la place de la vulgaire graminée. Et là, ça amène aussi une biodiversité dans la vie.
Racontez-nous, comment est fait, Marie-Lise Dorsa, comment est fait ce fascicule? Qu'est-ce qu'on trouve entre les pages pour chaque essence?
Voilà, alors dans chaque page, on va trouver justement une essence avec la photo. Donc la photo générale, ensuite il y a la feuille, la fleur, le fruit. Et puis là, vous pouvez voir tout ce qui est marqué, c'est la hauteur, la fleur, si le fruit est comestible ou pas. C'est les feuilles, comment elles deviennent en automne, si elles changent de couleur, parce qu'il y a des plantes, l'automne, elles sont magnifiques.
Hein. C'est vrai.
Après, si la plante est dioïque ou pas, s'il en faut deux. Et là, ici, par exemple, vous avez vu, c'est un arbre. Et puis, quand ce sigle ici, c'est un arbuste. Donc la différence, c'est aussi les hauteurs. Un arbre, ça va venir beaucoup plus haut qu'un arbuste. Et puis, ce petit sigle ici, c'est justement tout ce qui est valeur écologique. Ça va être butiné par des papillons, des oiseaux, pour nidifier. Certains, par exemple, dans cette plante, là, l'oiseau ne va pas nidifier, tandis que là, oui.
Alors, par exemple, là, on est sur la page du Troène vulgaire. Et là, voilà. Effectivement, ça attire des insectes, des papillons, des oiseaux. On peut y mettre son nid, mais pas voilà. Par contre sur le cornouiller mâle.
Voilà.
Donc ouais, c'est génial.
Voilà.
Donc, si on a des chats, par exemple, on prendra plutôt un cornouiller mâle, peut-être pas le troène vulgaire.
Exactement. Et puis de ce côté-ci, vous avez aussi les valeurs. Ben, justement, si la plante, elle aime plutôt le plein soleil ou le moins de soleil, et puis la quantité d'eau. Voilà.
Oui, le cornouiller mâle, c'est surtout pour les apiculteurs.
Ah oui,
les premiers arbres qui fleurissent. Au printemps.
Bon, là, on voit sur cette icône qu'effectivement, il y a une petite trompe. On imagine que c'est pour prendre le nectar des fleurs. Eh bien, formidable. C'est un vrai succès, hein, ce fascicule depuis 10 ans.
Oui.
Alors, évidemment, qui concerne le Valais, parce que, ben, à la base, il a été créé pour ici, mais j'imagine que ça s'exporte. On peut très bien aussi trouver plein d'informations hyper utiles à l'extérieur du Valais.
Oui, bien sûr. On a des gens de l'extérieur qui viennent nous acheter des arbres, en effet.
Nadine, Marion, vous les spécialistes en viticulture, quelles essences accompagnent volontiers la vigne, le vin? Et puis est-ce que la vitiforesterie, c'est quelque chose qui se développe aussi dans votre canton, Nadine Fenninger-Bridi?
Alors, je suis pas vraiment spécialiste des arbustes, puis vous donner vraiment des essences qui accompagneraient bien. Je sais qu'on met volontiers des bagnaudiers, des choses comme ça dans les vignes. Par contre, aujourd'hui, on a un gros projet en Valais, c'est un projet de modernisation du vignoble. Et là, on accompagne tous les projets d'une analyse agro-environnementale pour ramener de la biodiversité dans le vignoble. Alors, il y a des arbres qu'on veut pas voir dans le vignoble parce que ils nous amènent des insectes qu'on n'aime pas amener dans les vignes, par exemple la mouche Suzuki. Si c'est des arbustes à fruits, on préfère pas trop les avoir dans les vignes. Mais par contre, il y a plein d'arbustes qui créent un superbe écosystème avec la vigne, et ça c'est vraiment une volonté aujourd'hui de réintroduire plus de biodiversité.
Marion, quels arbres vous avez plantés en haut à Bedon? Et pour quel usage?
Bon, on a laissé pas simplement pousser ce qui venait naturellement. Il y a des noyers, mais en bordure, parce que c'est très compliqué d'insérer dans la vigne des plantes. Ça complique beaucoup la culture. Ici, où nous sommes, il y a une magnifique murgère en deux vignes. C'est très, très beau. Il y a pas mal de petites choses qui poussent. Et on a laissé tous les bordures des vignes avec les essences naturelles. Et j'ai le souvenir, quand j'étais petite, je pense pas que les gens jetaient des noyaux dans les vignes de pêcher, mais ils plantaient sciemment les pêchers. Il y avait des taches roses dans les vignes. Je pense que les gens avaient envie d'avoir des pêches aussi. Et ils ont tous disparu suite à l'utilisation d'herbicides. On n'en voit pratiquement plus. C'était magnifique au printemps parce que ça faisait ces touches roses. C'était très joli. Et c'est très agréable aussi de pouvoir manger 2-3 pêches.
On fait l'apologie de la diversité ce matin, hein, dans cette émission. C'est important, effectivement, la diversité pour affronter les enjeux de l'avenir, Nadine. J'imagine qu'effectivement, on le parlait, hein, tout à l'heure, de toutes ces recherches, de toutes ces variétés, ces nouvelles variétés. Plus on mise sur plus on a de chevaux sur lesquels on mise, plus on a de chances d'en avoir à la fin qui gagne.
Oui, tout à fait. Puis la diversité, c'est aussi un patrimoine qu'on a. Je pense aussi à l'Arvine, par exemple. On a fait tout un travail à l'état du Valais de récolter les différents types d'arvines qu'on a trouvées en Valais. On a une centaine de types d'arvines différents. Et ça, cette diversité-là, elle aide aussi à avancer avec le réchauffement climatique, parce que on va chercher aujourd'hui des arvines qui ont plus d'acidité. On les a tous caractérisées. Hein. Cette centaine de types d'arvines, on a caractérisé. Certains assimilent mieux l'azote, d'autres ont plus d'acidité. Et puis aujourd'hui, d'aller chercher dans ce patrimoine-là pour affronter l'avenir, c'est aussi une richesse.
Jusqu'à 9h, c'est Côté Jardin.
Et jusqu'à 9h, on fête les 100 ans de la biodynamie avec nos deux autres invités de l'association romande de biodynamie. Il s'agit d'Alain Bizard, coprésident, chef de culture, et puis Laurent Sommer qui s'occupe de la communication. Et c'est très bien parce qu'il a un tas de feuilles et de documents devant lui. On voit qu'il prend son travail très au sérieux, sa mission très au sérieux. Messieurs, quelles sont les activités de votre association au niveau romande?
Une des principales, c'est le renforcement des liens entre producteurs. Il y a aussi un but de créer des liens entre producteurs, commerçants, clients aussi, ceux qui viennent acheter nos produits. Et puis aussi le renforcement aussi des liens avec les autres institutions, associations, pour continuer de proposer quelque chose de pertinent pour développer la biodynamie, justement, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels. On a vraiment ces deux choses-là qui sont liées. On ne dissocie pas les deux, en tout cas à l'association romande de biodynamie, c'est vraiment travailler sur ces deux choses-là. Et Laurent, qui va en parler très bien, c'est aussi proposer des formations pertinentes et qui partent de la base. C'est-à-dire que ce sont soit les particuliers, soit les professionnels qui viennent vers nous en nous disant « j'ai telle problématique ou j'ai tel questionnement ». Et après, à nous de trouver les intervenants capables de pouvoir répondre et avoir des solutions vraiment concrètes pour développer la biodynamie. Je laisse la parole à Laurent.
À Laurent, Laurent Sommer, vous m'avez donné un document là. C'est pour une formation le 29 novembre, par exemple. Alors prenons cet exemple-là pour illustrer les formations que vous proposez.
Alors cette formation, on peut la qualifier de haut de gamme. On a, comme on fête les 100 ans de la biodynamie, on a mis le paquet. On a invité un vétérinaire du Jura français qui est très réputé dans son expérience avec l'élevage en biodynamie, qui est aussi un vétérinaire homéopathe et ostéopathe, ça court pas les rues, et un vulgarisateur très, très reconnu. Et ainsi qu'une agronome du FIBEL, donc qui est une chercheuse, mais qui a aussi une grande expérience pratique. D'ailleurs, pour la petite histoire, elle a commencé son apprentissage dans l'association La Branche à Savigny, qui est un domaine qui est vraiment depuis très longtemps en biodynamie. Donc elle a une grande expérience. Alors on aura justement dans cette journée une partie théorique avec justement le regard vétérinaire et le regard agronomique sur les bonnes conditions d'élevage en bio ou en biodynamie, tous les petits facteurs, les tips quelque part qu'on peut rajouter pour justement améliorer le confort du bétail et qui leur donnera une bonne santé, et aussi une façon de faire un constat sur l'aspect physique, énergétique des animaux grâce aussi à des ateliers l'après-midi. Donc ce sera une journée à la fois théorique et pratique avec des ateliers l'après-midi et pour un prix vraiment dérisoire. Donc il y a encore des places, une dizaine de places, et c'est le 29 novembre et les inscriptions le délai d'inscription est repoussé au 22 novembre. On peut trouver les informations sur le site de l'association romande de biodynamie, c'est arbdyn.ch, arbdyn.ch. Ça, c'est la formation prochaine, puis sinon, on a prévu.
Alors, je vais juste vous poser une question, parce que là, effectivement, sur l'élevage des ruminants, j'imagine que ça ne s'adresse pas à tout le monde, c'est principalement pour des professionnels de l'élevage, mais de manière générale, les formations proposées par l'association romande de biodynamie, est-ce que c'est pour monsieur et madame tout le monde, ou est-ce qu'il faut déjà être très pointu, très initié, très pro?
Non, c'est de cas en cas. On essaye justement d'avoir un catalogue de formation bien diversifié. Celle-ci paraît pointue, comme je l'ai peut-être présentée. Puis en même temps, je pense qu'avec des animateurs d'une telle qualité, ça sera très pédagogique, ça sera très ouvert. Il y a essentiellement pour l'instant des agriculteurs qui sont inscrits, mais ça reste ouvert. Je pense que c'est une journée passionnante, quel que soit le niveau de compétence que l'on a. Et puis pour l'année prochaine, on a d'autres formations autour du maraîchage, autour de la production de compost, l'utilisation des plantes pour soigner les plantes. On prévoit aussi un cours de vinification biodynamique, mais justement un peu destiné à celui qui a envie de faire juste son petit lopin de terre, et puis de manière très artisanale. Donc ouais, un catalogue complet. Mais pour ça, c'est vrai que les informations qu'on retrouve sur le site en principe sont assez explicites. Normalement.
Il y a toutes les infos sur arbdyn.ch, votre site internet.
C'est ça, oui.
On l'a mis en lien évidemment sur la page aussi de Côté Jardin.
Super.
On le disait, dans l'histoire en fait de la biodynamie éclaire assez bien la démarche, parce qu'il y a, donc on l'a dit, en 1924, Rudolf Steiner qui, à la demande des agriculteurs, édicte certains principes, enfin fait des conférences, des formations finalement, hein, en lien avec des travailleurs du terrain. Et puis petit à petit, les choses se diffusent, sortent un petit peu de cette sphère-là, et puis ça devient au final la biodynamie. Et donc ça part vraiment d'une rencontre, de discussion. Est-ce que c'est toujours comme ça aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a vraiment des manuels, des choses qu'on doit intégrer pour pratiquer?
Alors, il y a deux aspects, mais le premier sur la biodynamie, pour synthétiser, en fait, c'est un enseignement qui vit au travers de ceux qui le pratiquent, vraiment. Et c'est aussi pour cela qu'on voit parfois des méthodes assez différentes selon qui le pratique, parce qu'ils ne le pratiquent pas sur les mêmes endroits, les mêmes lieux, les mêmes terroirs. Et il y a aussi l'affinité que l'on a en tant qu'humain. Donc il y a déjà cet aspect-là. Après, il y a effectivement toute la partie plus avec les préparats, qui est, on va dire, plus scientifique, plus agronomique. Donc il y a ces deux parties-là qui constamment sont en lien. Pour moi, on ne peut pas dissocier les deux. Donc il faut à la fois avoir une pratique avec des préparats de bonne qualité. Donc il faut savoir qui les fait, qui les prépare comment. Savoir comprendre un petit peu comment ça se positionne. Et après, le faire aussi avec ce qu'on observe sur le terrain et avec notre sensibilité. Et comme le disait bien Marion, avec les moyens que l'on a, que ce soit en tant que professionnel ou particulier.
Et puis, il y a aussi un label qui n'est pas le label biodynamique, mais qui est le label Demeter, mais qui est rattaché. Quel est le lien? Est-ce tout biodynamie est Demeter, ou est-ce qu'on peut être biodynamique et pas Demeter? Enfin, comment ça se passe par rapport à cette question-là?
Alors, On peut très bien être biodynamique sans avoir un label d'émetteur. Le label d'émetteur est là pour une identification plus facile. Et clairement, il n'y a pas d'obligation. Par rapport à ça, il n'y a pas de protection du mot biodynamique. Il y a d'autres labels qui existent en France comme Biodivin. Marion me dit que non, mais moi, j'ai des informations toutes récentes. Voilà, allons-y.
On ne peut pas revendiquer biodynamique sans être certifié. Mais c'est certifié d'émetteur. On peut pas utiliser le mot biodynamique pour dire et puis après on n'en est pas sûr. Mais c'est par rapport, on peut très bien le faire. On peut dire.
On peut pratiquer. On peut par exemple essayer de faire. Enfin, on peut essayer.
On peut le faire.
J'aime bien parce que moi, c'est de mon point de vue. Moi, j'essaye toujours. Après, je suis pas sûre de réussir, mais on peut s'en approcher sans forcément.
On peut cultiver son jardin en biodynamie. Le problème, ça change, c'est quand on veut vendre les produits. Alors, on peut pas mettre dessus que c'est biodynamique. On peut éventuellement le communiquer. C'est simplement une question de certification.
Et de, voilà.
Ça a changé.
Ça a changé, nous dit Laurent Sommer.
Mais okay. Déméter, après, c'est un label international.
Oui, voilà. Oui. Mais de source sûre, le nom biodynamie peut être utilisé librement. C'est des sources vraiment de la section agricole. Oui, c'est récent.
Et est-ce que c'est une bonne chose, vous qui êtes dans la communication, Laurent, ou plutôt
complètement.
Pas?
Complètement, oui.
Ah, vous trouvez que c'est mieux de pas, enfin, d'avoir cette liberté d'inscrire biodynamique, même sans certitude que. Les modes de fabrique, les modes de culture soient pas totalement respectés.
Le plus important, à mon avis, c'est surtout de cultiver cet état d'esprit. Et le label, quand même, quand on veut l'obtenir, nécessite aussi des finances. Et je peux comprendre que pour certains, c'est un peu un obstacle. Et moi, je pense que ouais, l'essentiel, c'est l'esprit, l'état d'esprit. C'est le cas de le dire.
L'esprit et la curiosité et l'observation et le faire ensemble aussi.
Oui. Anciennement, à l'époque, juste après Rudolf Steiner, les paysans se rencontrent, les paysans pratiquant la biodynamie, puis c'était, en général, la biodynamie a été conçue, dans un ensemble, dans un cercle, en ayant du bétail, et un cercle fermé. Et chaque agriculteur avait son entité. Donc, c'est aussi lui qui imprégnait, c'est pour ça que c'est très différent. Les biodynamistes, ils sont pas tous alignés, couverts, sectes, comme on dit. Pas du tout. Chacun a des initiatives différentes. La base, ce sont les préparations, et ça, il faut les appliquer correctement, sinon ça marche pas. Mais voilà, c'est une entité. Après, le but, c'est que le plus possible de terres soient cultivées de cette façon, avec ou sans label. Mais après, le commerce nous oblige à nous certifier. Si on est régional, les gens savent ce que vous faites, il n'y a pas besoin. Puis justement, les paysans, ils se rencontraient le dimanche, ils s'entraidaient. Quand il y avait des nouveaux, il y avait un parrain. Et ils se rencontraient, ils visitaient un dimanche chez l'un, un jour ils passaient des dimanches agréables. Il n'y avait pas besoin de certification. Mais dans notre monde moderne, où on exporte jusque de l'autre côté de la planète, on est obligé de passer par ce passage difficile et compliqué.
Parlons modernité justement avec Alain Bizard et Laurent Sommer, membres donc de cette ARB, Association Romande de Biodiversité. C'est quoi l'avenir de biodiversité? Pardon. Oui, alors écoutez, désolé, il est 8h47, c'est tôt pour beaucoup de gens. Pour nous, c'est assez tard finalement, vu l'émission de ce matin en direct de FUI. Oui, quel est l'avenir? Comment vous voyez l'avenir et la modernité de la biodynamie et de votre association aussi? Est-ce que vous voyez un avenir numérique dans le réseautage sur Internet ou plutôt dans le resserrage des liens sur le terrain? Qu'est-ce qui est un petit peu les portes vers l'avenir et le futur de votre association?
Alors le réseautage, on l'utilise de toute façon parce que c'est par la force des choses. Faut rester en phase avec la réalité d'aujourd'hui. Sinon, je trouve que le potentiel pour la biodynamie est tellement important parce qu'en fait, tant qu'il y a des terres qui sont, entre guillemets, malades, la recette de la biodynamie est quand même un type d'agriculture qui est guérisseuse. Et je pense que tant qu'il y a ça, la biodynamie a tout son sens. Et ensuite, une fois qu'elle est bien pratiquée, une fois qu'il y a un rythme qui s'installe, ça devient presque un automatisme. Donc pour moi, je vois pas du tout de frein à ce que la biodynamie se développe.
Oui, je voulais compléter, peut-être ajouter que la biodynamie n'est pas un ennemi de la technologie, au contraire, mais elle permet de la diriger, on va dire, correctement et de manière plus pertinente et plus cohérente avec le vivant. C'est vraiment cette cohabitation entre la technologie et le vivant que la biodynamie essaye de, et je pense que c'est ça aussi l'avenir, c'est d'utiliser cette technologie, de ne pas aller trop loin au détriment du vivant. Toujours garder à l'esprit ces deux choses-là. Et je voulais dire juste historiquement que l'ARB a été aussi fondée pour rassembler justement les différentes pratiques et les différentes interprétations, parce qu'il y a eu des écoles différentes à un moment donné, ça se confrontait un petit peu. Et c'était vraiment, je pense, l'avenir est à se rassembler, même si on a des points de vue différents, qui sont tous pertinents, mais se rassembler autour d'un thème commun qui est la
nature et la biodiversité,
voilà.
Et la vie du sol,
évidemment. De vrai pour le vivant, en fait, clairement.
Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin à Fuy pour fêter ces 100 ans de la biodynamie et parler aussi évidemment de la vigne et du vin, puisque on le disait, c'est vraiment aussi et surtout autour de la vigne que la biodynamie a pu inscrire ses lettres de noblesse dans notre région. Il est 8h49, on écoute une dernière chanson, puis ensuite on fera le tour de table et on clôturera cette émission en direct de Fuy où nous sommes depuis 6h ce matin.
Il a plu dans la chambre, est-ce que c'était mes larmes ou juste un bout de toi qui part? Je crois que j'ai les mains qui tremblent, je cherche un peu la flamme, est-ce qu'il reste nous quelque part? Mais quand tu me regardes, je baisse un peu la garde.
La pluie qui tombe uniquement à la radio et dans la voix de Louane ce matin. Il est 8h52. Je commence par dire merci à tout le monde, puis comme ça après je laisse la parole à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour des questions. Donc merci infiniment à Marion Grange de nous avoir accueillis. Merci à Nadine Pfenninger-Bridi d'avoir été avec nous, œnologue cantonale, et ils font des selfies, non mais je vous jure. Marie-Lise Dorsa aussi qui est venue nous parler de ce fascicule sur les plantes indigènes. Merci infiniment aussi à Nicole Corpato, notre attachée de production, à Lucie Covier, notre assistante, et puis grand merci à JP Mage et Bastien Meucli qui est en technique, et puis aussi à nos jardiniers. Et je donne la parole à Nicolas qui est entouré. Alors à votre droite, vous avez un spécialiste des oiseaux, c'est ça?
Oui, donc c'est un amateur local, grand photographe animalier, puis qui parcourt la région ici, connaît tous les oiseaux qui circulent par là. Alors je vais juste lui donner la parole, il a observé quelque chose hier. Sous le domaine de Bedon dans les rochers.
Votre prénom ?
Patrick.
Patrick, qu'est-ce que vous avez vu sous le rocher ?
Ici à Bedon, on a un milieu assez spécifique qui est un milieu de falaise. Donc il y a des espèces qui sont attachées aux falaises Et ce qui m'a attiré hier, en fait, j'ai rencontré Nicolas hier qui préparait l'émission. C'est les oiseaux que j'ai vus en premier. Il y avait un couple de faucons pèlerins, en fait, qui chassaient une buse parce qu'ils ont un territoire de ce côté-là. Et c'est un oiseau qui est vraiment attaché aux falaises, puisque c'est un oiseau qui chasse en piqué. Donc on le retrouve dans ces milieux plutôt abrupts.
Eh ben on va ouvrir les yeux, puis on va. Vous nous dites hein, après si vous le voyez, comme ça on pourra l'observer.
Je vous dirai.
Il y a de plus en plus de monde qui arrive parce qu'on a dit qu'on restait encore un petit peu après l'émission, donc on est là. Hein, donc si vous voulez encore venir à Fuy, on a encore là une bonne heure. Hein, donc n'hésitez pas. Et Nicolas à côté, vous à votre gauche, il y a une personne. Bonjour.
Oui bonjour.
Votre prénom?
Laurence.
Bonjour Laurence.
J'ai amené quelques feuilles de mes arbres pour voir ce qu'il y avait comme maladie.
Qu'est-ce que c'est, Nicolas?
Alors ici, il y a une feuille de pommier qui est un peu jaune comme ça, mais je pense que ça c'est une feuille qui vient vieille. Un peu de chlorose et tout, c'est pas trop grave. Là, il y a une feuille de cerisier qui est percée, qui a certainement eu un peu de une maladie qui s'appelle maladie criblée, qu'on peut traiter avec un peu de lait. Petit lait.
Au petit lait.
Voilà. Et puis là, il y a une feuille de vigne, typiquement, qui a eu un peu de mildiou. Et là aussi, il y a des traitements bio à faire. Là, il y a une feuille de prunier qui a eu quelques pucerons et quelques chenilles qui ont rongé un petit peu. Ça, c'est... il faut toujours... Quand il y a des insectes qui viennent ronger et tout, il faudrait toujours faire des traitements préventifs avec, il y a des insecticides et des produits naturels qu'on peut traiter. Et puis là, il y a une feuille de poirier où il y a une chenille mineuse qui a rongé un petit peu cette feuille de poirier. C'est rien de trop grave.
Donc, eh bien, Laurence, rien de grave.
C'est rien de trop grave. Hein. Et puis bon, les feuilles de vigne qui sont un peu tachées, c'est normal ici à fin de saison.
Bon, ça va, Laurence, l'analyse vous a convenu? Ça va très bien. Super. Et puis, juste à côté, on a un autre auditeur. Bonjour.
Bonjour.
Votre prénom?
Sébastien.
Sébastien, vous êtes venu aussi avec une petite branche.
Oui, d'un olivier qui est accompagné de son copain à la maison qui est en pleine santé. Et lui, il était juste à côté et il a malheureusement montré des signes, soit d'attaque d'un parasite ou de sécheresse, je ne sais pas.
Nicolas, votre pronostic?
Oui, je pense que bon, c'est un olivier qui est grignoté par les othuringues. L'othuringue, c'est un insecte qui sort la nuit hein, et puis qui va ronger, il va faire des dentelles sur les feuilles. Il y a des traitements bio à faire, mais ça, il faut faire préventivement au mois d'avril déjà. Donc, l'année prochaine, au mois d'avril, tu vas arroser avec ce produit et puis l'olivier sera sain.
Merci Nicolas Faiss pour tous vos conseils et puis pour l'organisation aussi, l'organisation de cette tente, puisque c'est vous qui vous y êtes collé, puisqu'on est un peu chez vous aujourd'hui, hein, Nicolas Fuy.
Tout à fait. Et ça m'a fait plaisir que l'émission se passe ici. Surtout que ça fait longtemps, bon, ça fait déjà une autre fois que la radio est venue à Fuy, mais ça nous fait toujours plaisir quand on parle un peu de cette belle région.
J'aimerais maintenant remercier aussi Delphine Giraud-Valoton pour voilà aussi son travail précieux pour cette émission. Comment ça s'est passé ce matin?
Oui, c'était super. Alors moi, j'adore parler. On disait en début d'émission que Marion, c'était un petit bout de femme qui court dans tous les sens, mais on m'a fait la réflexion que au final, moi aussi. Donc on s'entend assez bien. J'ai pas été beaucoup à l'antenne, mais sachez que voilà, j'ai fait beaucoup de choses derrière, c'était super.
Il y a une super ambiance en tout cas ici. Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil. Et puis j'aimerais maintenant donner la parole à Daniel Yeguin, pour qui c'est la dernière émission aujourd'hui. Ouais, beaucoup d'émotions.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous, à votre gentillesse. Et puis après 27 ans, merci la jeunesse, merci Pauline, longue vie à l'émission.
Merci Daniel, on est très émus. Et sans passer par autre chose, la route s'il vous plaît.
Infotrafic RTS.
Aucune perturbation n'est à signaler sur les routes de Suisse romande. Pour consulter l'inforoute en tout temps et en temps réel, c'est sur le site rts.ch/trafic.
Infotrafic RTS,
en collaboration avec les CFF et le TCS.
Côté jardin va donc se clore cette émission spéciale en direct de Chuy. Nous étions ici au pied du domaine de Bedon, comme dit. Vous trouverez plein d'informations sur notre site internet, les liens vers Vive les arbres et arbustes indigènes, donc ce fascicule publié par la commune de Chuy avec le triage forestier de Chuy pour trouver donc des indications précieuses sur les plantes à faire croître chez vous. Vous trouverez également les liens vers l'association ARB, Association romande de biodynamie. Il faut que j'arrête pas biodiversité, on biodynamie.
On va peut-être se renommer comme ça. Alors.
Ce serait vachement bien, non bien. Merci à toutes et tous. Merci infiniment à Marion Grange d'avoir été là. Et puis merci chaleureux aussi à tous les jardiniers, Cédric Baudin, Delphine Giraud, Valoton, Estelle Schneider et Nicolas Feiss qui étaient avec nous ce matin. Et puis Daniel Yeguin, évidemment. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission en studio. Vous allez nous manquer, hein. Bonne journée à toutes et à tous. Et sur les premières, il est 9h.
RTS La Première vous offre l'heure.
Il est 9h.